Hein, quand il a été jeté en bas, il a compris. Et quand vous êtes jeté en bas, vous comprenez que Saint-Esprit vous secoue. Hein. Tandis qu'au contraire, quand vous êtes sur un escalier roulant, vous croyez que ça monte tout seul parce que ça monte tout seul. C'est merveilleux. J'ai passé une journée merveilleuse. Oui, c'est le Saint-Esprit qui peut-être vous a permis de passer cette journée merveilleuse sans aucun chaos, sans, tout simplement avec une espèce de simplicité. Il était présent. Et la présence du Saint-Esprit en nous, c'est la grâce. Le Saint-Esprit demeure en nous par la grâce. Puisque la grâce est liée au mystère de la grâce incréée qui est l'Esprit-Saint. Participation formelle à la nature de Dieu, ce qui fait que Dieu est toujours là et qu'il se communique à nous de cette manière personnelle et intime. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez lire. Vous pouvez lire, non?
Pourquoi la crainte? Je ne sais pas, j'arrive peut-être.
Qu'est-ce qu'il y a?
Pourquoi la crainte n'est-elle pas le plus grand don du Saint-Esprit, si dans l'Ancien Testament la crainte du Seigneur est le principe de la sagesse.
Oui.
C'est facile. Chapitre 1er, 11 à 20.
Oui.
C'est le couronnement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Le Nouveau Testament révèle-t-il un autre ordre de valeur?
Alors, la crainte, principe de la sagesse, en ce sens, point de départ de la sagesse, initium. C'est comme ça que, de fait, ça a toujours été regardé. Pas du tout principe comme source de la sagesse, c'est-à-dire comme dominant la sagesse. Il y a quand même toute une tradition même de cette fameuse phrase qui a été reprise constamment. La crainte est le point de départ de la sagesse. La crainte est le principe de la sagesse. Le principe, ça peut s'en comprendre de deux manières. Principium, hein, le principe, même si c'est arché, si c'est le principe peut s'entendre de deux manières, comme le commencement ou ce qui domine. Il y a les deux. C'est les deux points de départ. Le premier génétiquement et le premier selon l'ordre de nature, selon l'ordre de perfection. Or, la crainte n'a jamais été considérée dans la tradition de l'Église comme ce qui est le sommet, mais toujours comme le point de départ, toujours comme le fondement. Nous revenons tout le temps à la crainte. Nous y revenons tout le temps. Nous en avons besoin pour toucher le roc, pour toucher notre pauvreté. Et c'est ça qui nous permet de rebondir vers la sagesse. Vous voyez ? Donc, je dirais que sagesse et crainte représentent les deux sommets de l'action du Saint-Esprit en nous. Et ça va toujours comme ça. Les dons aussi du Saint-Esprit, qui ne sont pas d'ordre psychologique, ils sont d'ordre divin. Et ceci permet la croissance de l'amour. L'amour, vous voyez, c'est ça qui est très curieux, parce que c'est quand même très intéressant, sans faire d'éclectisme. Hein. Mais dans l'amour, il y a la surabondance et la pauvreté. Et l'amour divin, qui est le mystère de la très sainte Trinité, qui est le mystère de l'Esprit Saint, il a en nous le point de vue de la sagesse. Et la sagesse, c'est ce qui nous permet de tout ordonner, ce qui nous permet de regarder, c'est le regard. La sagesse, on va le voir, c'est l'esprit de contemplation. C'est l'esprit du regard d'amour. La sagesse nous fait regarder, nous fait aimer en regardant. Il nous fait uniquement aimer en regardant. Et la crainte nous fait appeler. Celui qui craint, il ne peut pas avancer tout seul, alors il appelle. C'est un appel constant parce qu'on voit que par soi-même on ne peut pas. Alors, s'il n'y avait que la sagesse, on croirait que c'est déjà arrivé. Mais non, maintenant la crainte. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le Saint-Esprit nous dépose tout en haut d'un. Alors, pour que nous comprenions la crainte. Et c'est vrai, quand on est situé en haut d'un pic, hein, on voit la pauvreté, on ne peut pas continuer tout seul. C'est le Saint-Esprit qui nous a mis là. Et ça arrive très facilement, ça. Après, vous voyez, certains aspects où le Saint-Esprit nous a poussés très loin dans un regard divin, plus rien. Alors on se trouve tout bête. On ne sait plus, quoi. Parce qu'il y a eu quelque chose de merveilleux, puis plus rien. La crainte qui nous fait comprendre notre pauvreté, notre pauvreté radicale. La pauvreté que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans l'Esprit Saint, on ne peut rien faire. On comprend ça. On peut faire quelque chose encore, puisqu'on peut encore exercer les dons. On peut exercer nos vertus théologales. Mais on sent ça très fort, que l'exercice que nous faisons, nous, c'est tellement médiocre. Parce qu'on est de peu d'amour. Et qu'il faut le souffle de l'Esprit Saint pour qu'il y ait cette élévation.
Pourquoi est-ce la sagesse qui perfectionne la charité? Ne pourrait-on dire que c'est le don de piété qui perfectionne la charité?
Oui. Alors,
la charité s'enracine dans la volonté, la sagesse plutôt dans l'intelligence. Est-ce donc faire tomber l'intelligence dans le cœur que de recevoir le don de sagesse?
Oui, sûrement que c'est faire tomber l'intelligence dans le cœur. Ça, je suis d'accord. C'est pour que toute votre intelligence soit entièrement saisie par l'amour. Pour que toute la lumière soit dans l'amour. Nous le verrons progressivement. C'est ça. Et le don de piété, c'est l'exercice. L'exercice de la charité fraternelle, ça c'est sûr. C'est l'exercice de la charité fraternelle. Je crois que le don de piété très très éminent, vous voyez, c'est quand Jésus nous donne sa mère. Pour moi, c'est peut-être la plus belle expression du don de piété. Jésus nous donne sa mère, en disant à Marie, femme, voilà ton fils, et en disant à Jean, voilà ta mère. Et alors, c'est un don de piété lié à la sagesse, vous voyez. Parce que l'exercice de notre charité fraternelle, lui aussi, peut se faire de multiples manières. Et il y a un exercice de la charité fraternelle qui est très en dépendance de la contemplation. Les contemplatifs s'aiment autrement que les actifs. Les contemplatifs s'aiment autrement. Nous l'avions vu ça à propos de la solitude et l'exercice de la charité fraternelle. Vous voyez, quand dans l'exercice de la charité fraternelle, il y a quelque chose de tout à fait divin, l'exercice de la charité fraternelle est alors lié au don de sagesse. Et le don de piété et le don de sagesse se lient ensemble pour nous donner comme un exercice très très divin. Je crois que lorsque Jésus dit « Femme, voilà ta mère », il y a le don de sagesse et le don de piété. Et c'est à travers cette parole de Jésus adressée à Marie, à travers ce lien de Jésus avec sa mère, que nous comprenons l'exercice le plus éminent du don de piété, lié au don de sagesse. Oui, alors le don de piété est plus affectif, c'est normal. La charité fraternelle est plus affective que notre charité à l'égard de Dieu, parce qu'elle est attirée vers la lumière. Notre amour à l'égard de Dieu réclame la contemplation. Notre amour à l'égard de nos frères ne réclame pas tout de suite la contemplation. Vous ne dites pas à votre frère, je t'aime tellement, je te contemple. Non, vous ne dites pas ça. Vous dites, je t'aime tellement, alors je suis là pour t'aider, te porter, te soutenir. Et c'est ça qu'on dit spontanément dans la charité fraternelle. Mais je ne dis pas, vous savez, je me souviens, dans les couvents, il y a toute espèce de choses qu'on voit. Voilà. Il y avait un frère convert qui dit au moment de l'oraison du matin, voilà, c'est ce soir, c'est Dieu, je vois encore. Il était merveilleux, extraordinaire. Alors, il était juste à côté, en face des petits novices. Et alors, comme je m'occupais du frère convert à ce moment-là, je dis, mais c'est curieux, dans votre oraison, vous êtes toujours fixé sur un tel, je me bien repéré. Je dis, ben oui, je suis content, il est tellement beau. Et toute sa contemplation, la charité fraternelle liée au don de sagesse. Alors là, je ne sais pas si c'était le don de sagesse. Je dis, je vous demande de baisser les yeux et de prier intérieurement, de voir la beauté de Dieu au-delà. C'était assez extraordinaire. Et on comprend très bien, c'était très. Alors, il a baissé les yeux et je lui demandais s'il avait vu la beauté de Dieu. Il m'a dit, c'est plus difficile. C'est plus difficile.
Pourquoi le don de piété perfectionne-t-il la vertu de justice?
Oui. Parce que par la charité, ça perfectionne toutes nos relations avec les autres. Par la charité, ça perfectionne la justice. Notre justice doit s'exercer sous l'emprise de la charité fraternelle. Nous n'exerçons pas la justice comme uniquement auprès du humain. Nous l'exerçons divinement, chrétiennement. Et donc la charité vient transformer l'exercice de la justice pour faire que nous nous adressons avant tout aux personnes et que nous les aimons. Et alors à ce moment-là, le don de piété vient transformer la justice par l'intermédiaire de la charité fraternelle. Oui.
Pouvez-vous préciser davantage ce que c'est que l'auxilium ?
Ah, l'auxilium, oui, la motion, le secours de Dieu. Oui, alors là, c'est essayer de comprendre. Vous comprenez ? Le mystère de la grâce dépasse infiniment tout ce que nous pouvons dire, heureusement. Hein ? Le mystère de la grâce, c'est Dieu. Catherine de Sienne dit, si on voyait une âme en état de grâce, on verrait la très sainte Trinité. Autrement dit, saisir ce qu'est la grâce, c'est saisir la très sainte Trinité. Et ça, c'est vrai. C'est ce que nous essayons de dire dans notre langage, en nous rappelant du reste, en nous rattachant à l'Écriture, participation formelle à la nature de Dieu. Donc la grâce nous met en communion directe avec le mystère de la très sainte Trinité. C'est la très sainte Trinité qui se communique à nous. C'est cette communion directe avec la très sainte Trinité. On est en union directe avec la très sainte Trinité. Et on vit du mystère de la très sainte Trinité. On vit du mystère de la très sainte Trinité. Cette communion que par l'Esprit Saint et dans l'Esprit Saint. Alors, le théologien de théologie scientifique essaie de comprendre la grandeur de ce mystère. Et il essaie de comprendre la grandeur de ce mystère à travers l'Écriture. Dans l'Écriture, nous voyons bien la transformation de quelqu'un, la déification de quelqu'un. Et saint Thomas, tout son traité de la grâce, est en grande dépendance avec saint Augustin. Le traité de la grâce de saint Thomas nous montre combien saint Thomas est proche de saint Augustin. En précisant certains aspects de saint Augustin, mais c'est très très proche, c'est lié, c'est beau parce que là on voit la communion profonde entre saint Thomas et saint Augustin. Il y a une espèce de communion très profonde entre les deux. Et au fond, saint Augustin a été un grand théologien de la grâce parce qu'il était en face de Pélage, il était obligé de préciser certaines choses et de préciser toute la gratuité. Très fort, saint Augustin insiste sur le mystère de la gratuité, sur lequel saint Thomas insiste beaucoup. Contrairement à ce que certains disent, que saint Thomas là-dessus, pas du tout, il est augustinien dans le traité de la grâce. Il est très très proche, mais il précise, mais il reste absolument dans la grande ligne saint Augustin. Alors, la grâce, c'est la miséricorde gratuite de Dieu, de la très sainte Trinité, du cœur du Christ qui nous porte. On est donc enveloppé de la grâce. On est enveloppé et on est transformé du dedans. Alors, il faut à la fois montrer l'enveloppement et puis la transformation intérieure. La transformation intérieure, c'est la grâce sanctifiante et l'enveloppement, c'est l'auxilium. Oui. L'enveloppement, c'est l'auxilium, c'est le secours. On est enveloppé par la grâce. L'auxilium, c'est cette motion constante dans laquelle on est attiré. Mais c'est une motion, et alors on traduit ça par motion, mais comprenons, disons, c'est une attraction. Parce que c'est une motion qui est le fruit d'une attraction. Hein? Causalité finale et causalité efficiente, en Dieu ne font qu'un. Et dans le mystère de la grâce, ça ne fait qu'un. Alors, auxilium, nous prenons nous toujours par la causalité efficiente, mais n'oublions pas que c'est la causalité finale. Hein? On est attiré par le Père. Et ça, c'est vraiment cet auxilium, c'est pour ça que je prends enveloppement. On est enveloppé par la grâce pour aller vers. Et je crois que c'est très important, parce que les orthodoxes ne retiennent ordinairement de la scolastique et de saint Thomas, quand ils parlent de la grâce, et de saint Augustin, que l'aspect de la grâce sanctifiante. Alors ils sont horrifiés, parce qu'ils ne voient qu'un aspect. Et c'est vrai, si je réduisais toute la grâce à la grâce sanctifiante, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la grâce est toujours gratuite et débordante. Elle m'enveloppe. Alors il faut bien voir cet auxilium. Oui. Bien voir à la fois la source de la grâce qui est le Père qui m'attire, l'auxilium, fruit de cette attraction, c'est je suis attiré par le Père, et le fruit intérieur dans mon âme, le fruit très profond dans mon âme, qui est cette grâce sanctifiante. Quelque chose de créé. Tandis que je ne dis pas que l'auxilium, vous voyez, dans l'auxilium, je vois avant tout l'attraction. Alors dans l'auxilium, il y a à la fois quelque chose de créé, quelque chose à créer. Et les deux sont. Je ne peux pas séparer là. En tant que c'est une attraction, c'est un créé. En tant que c'est une motion, c'est quelque chose de créé. Et donc je dois employer les deux. Et je peux le faire parce que je suis dans l'ordre de l'exercice. Tandis qu'au contraire, quand je vois de la grâce comme ce qui est le fruit de cet enveloppement divin au plus intime de mon âme, je vois la grâce sanctifiante comme une qualité qui innerve dans mon âme. Habitus entitatif. Une qualité qui vient ennoblir mon âme et qui lui permet d'être enfant de Dieu. Donc ce qui me divinise de l'intérieur et ce qui permet à mon âme d'être le lieu où Dieu se repose. C'est permettre à mon âme d'être le lieu où l'Esprit Saint habite, demeure.
Pourriez-vous nous dire comment on se met le mieux en disponibilité à l'exercice des dons du Saint-Esprit en nous ? Est-ce par la prière continuelle ?
La situation, c'est Marie et la prière perpétuelle, sûrement. La prière perpétuelle sous des formes multiples et diverses, mais c'est pas. Et c'est la prière perpétuelle qui nous met en, de plus en plus. Pourquoi la prière perpétuelle ? C'est pour être de plus en plus en acte. Oui. Alors, quand je parle d'acte d'adoration, ça fait partie de cette prière perpétuelle. Être en acte. En acte d'attente. Marie vient actualiser notre attente et notre soif d'être mû par l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint ne vient nous prendre que si nous avons cette soif. Oui, ce qu'Albert le Grand donne une petite image très simple, en disant comme le petit des corbeaux avec le grand bec ouvert. Très bien. C'est l'abandon et c'est la soif. Alors ça nous met dans cette attitude-là, d'avoir ce désir d'être mû par l'Esprit Saint. Il faut avoir un grand désir d'être mû par l'Esprit Saint. Ça me semble très important dans notre vie, pour ne jamais nous arrêter. Si on a toujours ce désir d'être mû par l'Esprit Saint, d'abord on s'occupe beaucoup moins des autres. Beaucoup moins des autres, dans le sens qu'on les critique moins. Et on porte davantage. C'est ça l'attitude, je crois, fondamentale de notre âme, d'avoir cette soif d'être mû par l'Esprit Saint. Et plus on est mû par l'Esprit Saint, plus on désire être mû par l'Esprit Saint. Et on demande à Marie d'être pour nous ce milieu divin. Elle est le milieu divin. Et là, je crois qu'on peut dire qu'elle est vraiment ce milieu divin qui favorise cette attitude d'attente et qui permet d'être... Alors, il y a les deux. À la fois demander la présence de Marie et puis cette soif. Très bien. Alors, nous allons continuer, si vous voulez, d'entrer. Alors, n'hésitez pas pour que ces questions-là, parce que c'est quand même ce que nous devons découvrir. L'action de l'Esprit Saint en nous, septiforme, cette action de l'Esprit Saint qui nous saisit, qui nous prend. Vous voyez, dans l'Apocalypse, la correction des sept églises. C'est l'Esprit Saint qui, à travers Jésus, corrige les sept églises. Et si vous regardez attentivement, vous trouvez à travers les sept églises les sept dons du Saint-Esprit. Au niveau de la correction, au niveau de l'élan. C'est constamment comme ça. On a, au point de vue exégétique, on a vu comment tout l'évangile de Saint Jean était dépendant du chiffre 7, comme l'Apocalypse, pour montrer comment l'action constante des sept dons du Saint-Esprit. Il y aurait toute une théologie à voir dans Saint Jean, de voir comment Jésus agit toujours sous l'action des dons du Saint-Esprit. Et que chacun des gestes de Jésus montre davantage tel ou tel don. La sagesse a-t-elle un siège dans l'intelligence ? Alors là, nous allons essayer de comprendre nos points de vue de la sagesse par rapport à l'intelligence et par rapport à la volonté. Cependant, selon saint Grégoire, la sagesse est contraire à la sottise. Ça, nous comprenons très bien. Comme la sottise est dans l'intelligence, il en est de même pour la sagesse. C'est évident. La sottise ne fait pas partie du cœur, vous voyez. Mais quelquefois, ça contamine le cœur. La sagesse suppose une certaine rectitude de jugement concernant les choses divines. Mais cette rectitude de jugement peut exister de deux façons, ou bien en raison d'un usage parfait de l'intelligence, ou bien en raison d'une certaine connaturalité avec les choses sur lesquelles porte le jugement. Ça, c'est un lieu très connu, très intéressant dans saint Thomas, le double exercice de l'intelligence, du jugement, un jugement intellectuel et un jugement affectif, par mode de connaturalité. Ainsi, par exemple, en ce qui regarde la chasteté, celui qui apprend la science morale juge-t-il d'une manière correcte par suite d'une inquisition rationnelle, par suite d'une recherche intellectuelle, une recherche par suite de son intelligence. Tandis que celui qui a l'habitus de chasteté le fait par une certaine connaturalité à ces choses. On est en connaturalité, en union affective. Et alors on comprend du dedans. Tandis que, par le point de vue de l'intelligence, on juge avec rectitude, avec précision. Mais alors, d'un côté, par connaturalité, on va beaucoup plus loin parce qu'on a un jugement interne. On a un discernement interne. C'est le discernement, vous voyez, du spirituel et le discernement du théologien. Très, très net les deux. Le discernement du théologien, qui n'est que théologien, professeur de théologie. Alors, il discerne par l'intelligence. Il y a une acuité plus ou moins grande. Et puis le discernement du spirituel, qui juge de tout de l'intérieur, par une connaturalité avec l'Esprit Saint. De même, en ce qui regarde les choses divines, les deux ne s'opposent pas. Hein. Oui.
Est-ce que le jugement de l'intérieur ne doit pas être constamment appuyé, vérifié?
Oui, tout à fait. Il y a les deux. Il y a les deux, il faut les deux. Mais il y a une distinction entre les deux. Et ici, on voit uniquement la distinction entre les deux. Oui. De même, en ce qui regarde les choses divines, avoir un jugement correct en vertu d'une démarche de la raison relève de la sagesse, qui est une vertu intellectuelle. Mais avoir un jugement correct sur les choses divines par mode de connaturalité relève de la sagesse en tant qu'elle est un don du Saint-Esprit. Là, c'est très très net. Hein. Au début de la somme, saint Thomas précise. Qu'il y a trois sagesses. Et ça, c'est très caractéristique de saint Thomas. Je crois que c'est ça qui caractérise le plus saint Thomas. Si on veut comprendre un peu son génie, c'est ça. C'est lorsqu'il distingue les trois sagesses. Et c'est assez très beau comme distinction. La sagesse, don du Saint-Esprit, c'est évidemment la sagesse la plus éminente. La sagesse acquise, alors, théologique. La sagesse acquise, philosophique. Théologique, à partir de la foi, dans la foi. Donc, c'est acquis, ça. C'est-à-dire qu'ici, c'est infus. C'est pour ça que le spirituel, qui est sous la mouvance du Saint-Esprit, dont il y a des moments où il ne voit pas, il dit, je ne vois pas, je suspends. Alors, tandis qu'au contraire, le théologien, lui, en tant que théologien, sa science est toujours acquise. Mais il a un danger, vous voyez. C'est pour ça qu'un vrai théologien doit tenir compte de ce que dit le spirituel Et le spirituel tient compte de ce que dit le théologien. C'est le concours des deux. Alors ça peut être le même, mais Saint-Esprit peut très bien exprès jumeler les deux. Et c'est très beau du reste. Parce qu'à la fois c'est l'humilité du théologien par rapport au don de sagesse de l'Esprit Saint et l'humilité du don par rapport à la sagesse acquise. Il y a les deux. Il y a les trois sagesses. Il faut tout le temps les mêler. Or, vous comprenez bien que la sagesse théologique ne peut être parfaite que si elle a la sagesse philosophique. Elle est acquise. C'est pour ça que ces deux sagesses acquises se tiennent très très fortement. Je crois qu'on ne peut pas avoir une vraie sagesse théologique sans la philosophie. Sans une philosophie réaliste, une métaphysique, hein. Ça on ne peut pas. Mais on peut avoir le don de sagesse de l'Esprit Saint sans la sagesse acquise théologique, sans la sagesse acquise philosophique. Mais on reconnaît toujours si c'est du Saint-Esprit, s'il n'y a pas de mépris par rapport à la théologie. Vous voyez, quelqu'un qui se dirait mu par le Saint-Esprit, qui mépriserait souverainement la théologie, je dirais, pour moi, ça pose un point d'interrogation. Toujours. Parce qu'alors, on risque de tomber dans l'illuminisme. Parce qu'on méprise. C'est pour ça que les trois sont toujours là, présents. Mais il est bien évident qu'en dernier lieu, hein, comprenez bien, en dernier lieu, c'est l'Esprit Saint qui nous conduit. C'est sûr, c'est l'Esprit Saint qui nous conduit. En dernier lieu. Alors nous avons le don de conseil qui nous fait demander au spirituel, qui nous fait demander le don de conseil, qui nous fait demander à ceux qui sont les représentants de Dieu auprès de nous, qui nous fait demander aussi aux mages, n'est-ce pas, le passage. Alors ça, c'est les dons de conseil. Mais c'est très, en dernier lieu, c'est le don du Saint-Esprit, parce que c'est là où on est, j'allais dire, dans le pratique immédiat. La théologie et la philosophie ont toujours quelque chose d'un peu abstrait. Forcément, ça ne peut pas être autrement. C'est le mode humain qui implique le point de vue des principes. C'est toujours un peu abstrait. Tandis qu'au contraire, le don de sagesse est pratique dans l'amour. Donc il est éminemment pratique. Pratique dans le sens divin. Alors, je continue pour que nous voyons bien. De même, en ce qui regarde les choses divines, avoir un jugement correct en vertu d'une démarche de la raison, de l'intelligence, relève de la sagesse, qui est une vertu intellectuelle. Mais avoir un jugement correct sur les choses divines par mode de connaturalité relève de la sagesse en tant qu'elle est un don du Saint-Esprit. Denis, parlant d'Hiérothée, dit de lui qu'il est parfait en ce qui concerne les choses divines, non seulement parce qu'il les connaît, mais parce qu'il les éprouve. Ça, c'est la fameuse affirmation de Denis, qui est si belle, qui dit « Non solum discens, sed et patiens divina ». Patiens divina. Vous voyez, la connaturalité se fait quand on pâtit. On est sous l'action de l'Esprit Saint, on est mu par l'Esprit Saint. Et quand on est mu, on pâtit. Tandis qu'au contraire, quand on porte un jugement de théologien, on se meut. Pas la même chose. On est discens. C'est pour ça que c'est très beau les deux expressions. Hein. Le mot discens est patiens. Celui qui pâtit, il laisse l'Esprit Saint passer devant. Celui qui est discens, ben oui. Il se meut et il juge. Alors quand il le fait avec vraiment beaucoup d'humilité et de vérité, il sait très bien qu'en dernier lieu, il remet tout à l'Esprit Saint. Il dit, voilà ce qui me semble. Mais c'est saint Thomas, exactement saint Thomas, après avoir écrit son traité sur l'Eucharistie, qui vient déposer son manuscrit auprès du tabernacle, et puis qui dit, Seigneur, ainsi c'est de vous. Si c'est conforme à votre vérité, très bien. Si c'est pas, détruisez-le. Si tous les théologiens faisaient ça après avoir écrit un bouquin de théologie, ce serait magnifique. De temps en temps, le Saint-Esprit les brûlerait leurs bouquins. Avec un petit sapin de cendre, frère. ce sens des choses divines, cette connaturalité avec elles, nous est donné par la charité qui nous unit à Dieu. Celui qui s'unit à Dieu n'est avec lui qu'un seul esprit. Alors ça, c'est la parole de saint Paul aux Corinthiens. « Qui adhéret Deo, unus spiritus est. » Non, celui qui adhère à Dieu, adhéret, celui qui s'unit à Dieu, qui est uni à Dieu, qui s'unit à Dieu n'est avec lui qu'un seul esprit. Ainsi donc, la sagesse, qui est un don, a pour cause la volonté, c'est-à-dire la charité. Mais elle a son siège dans l'intelligence, dont l'acte est de juger correctement, comme on l'a vu plus haut. Oui, mais elle a son siège dans l'intelligence, cette sagesse, don du Saint-Esprit. Ainsi donc, la sagesse qui est un don a pour cause la volonté, c'est-à-dire la charité. Elle est enveloppée de charité, mais elle est un jugement. Elle implique l'intelligence. L'intelligence est comme perdue dans l'amour. L'intelligence est portée par l'amour et perdue dans l'amour. Elle porte un jugement dans la connaturalité de l'amour. Grâce à la charité, je suis en union avec Dieu. Je suis un esprit avec lui. Et alors je peux juger de l'intérieur et non plus de l'extérieur. Et c'est le propre du don de sagesse. On juge par connaturalité. Alors c'est à la fois dans l'amour et dans l'intelligence. C'est là où les deux, hein, lumière et amour, se tiennent et sont unis d'une manière indissoluble. Je ne peux pas les séparer. Le don de sagesse implique cet élan de l'amour, ce souffle de l'amour, et implique dans ce souffle de l'amour cette lumière. C'est le souffle d'amour qui devient lumineux dans le don de sagesse. Mais c'est vraiment en premier lieu l'amour. Je suis lié, c'est à l'intérieur de la charité, je suis lié à Dieu. Et étant lié à Dieu, il y a cette lumière, ce regard intérieur. Qu'est-ce qu'il y a ? La cause formelle et finale, c'est l'amour. Et la cause efficiente, c'est l'intelligence. Et la cause matérielle efficiente. Oui, c'est dans l'intelligence, le siège. La cause matérielle et la cause efficiente. Oui, la cause propre efficiente, c'est l'intelligence. C'est un acte d'intelligence, mais dans l'amour. Et doublement dans l'amour, par l'objet et par la fin. Ce qui spécifie, ce qui détermine l'intelligence, c'est l'amour. C'est par connaturalité. C'est une lumière dans l'amour. Et c'est une lumière pour l'amour. Vous voyez ? Alors je peux préciser les causalités de cette manière-là. Les éclairs et le tonnerre, l'Apocalypse, pour montrer l'Esprit Saint. C'est les répercussions. Saint Augustin dit que la sagesse est la charité de Dieu. Mais la charité a son siège dans la volonté et non pas dans l'intelligence. Comme on l'a vu plus haut. Par conséquent, la sagesse n'a pas son siège dans l'intelligence. C'est la cause de la sagesse que Saint Augustin envisage ici. La cause, cause finale et cause formelle. Oui, ce qui détermine. D'où elle tire son nom de sagesse, selon qu'elle comporte une certaine saveur. Le propre de la sagesse est d'impliquer un goût. C'est un jugement qui se fait, on a bon goût, on a le goût divin. Alors on juge bien, on arrive à discerner, s'appairer. La sagesse, elle a cette espèce de goût affectif qui vient de l'intérieur. Deuxième objection, la sagesse qui instruit justifie son nom. Or la sagesse est une science savoureuse. Elle semble donc relever de l'affection à laquelle il appartient de goûter les joies et les douceurs spirituelles. La sagesse n'a donc pas son siège dans l'intelligence, mais plutôt dans l'affection. Donc, vous voyez, saint Thomas met exprès les objections du côté de l'affectif. Hein. C'est très, 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 très significatif. Toujours intéressant de voir ça. Parce que c'est thèse et antithèse, d'une certaine manière. C'est la complémentarité des objections. La réponse à faire à la seconde difficulté est claire. Est-ce bien là, cependant, le sens qu'il faut donner à cette citation ? Il ne semble pas. On s'en est tenu à l'acception qu'à la sagesse en langue latine. Mais en grec, elle n'a pas ce sens. La sagesse grecque, la sagesse latine. Mais et sans doute non plus dans les autres langues. Il semble plutôt que le nom de sagesse soit pris ici en raison de la réputation qu'elle possède aux yeux de tous. Je lis le point de vue, saint Thomas. Unde patet ad secundum, sit amen iste, sit intellectus ilius auctoritatis, quod non videtur. Quia talis expositio non convenit nisi secundum namen quod abet sapientia in latina lingua, in greco autem non competit, et forte nec in aliis linguis. C'est très amusant, ce saint Thomas qui montre ici le point de vue du mot, de la signification étymologique du mot sapere, sagesse. Ça, c'est saint Augustin, sapere, sagesse. Tandis que Sophia n'est pas du tout ça, c'est pas du tout sapere, Sophia. Sophia, c'est beaucoup plus lié à l'idée d'être principe d'ordre, le sage. Le sage en grec, c'est celui qui juge, qui discerne. Oui, c'est l'aspect du jugement, du discernement et de la loi. Les sages, ce sont ceux qui légifèrent, qui ordonnent. C'est vrai que le mot sagesse, c'est d'abord ça. Les sages, les sept sages, sont des hommes de gouvernement. Et la sagesse est prise du côté du gouvernement. Tandis qu'en langue latine, alors ça c'est très curieux, vous voyez, pour une fois la langue latine est plus intérieure que la langue grecque. Sagesse en latin exprime plus l'aspect intime de sapere, avoir du goût. Tandis que le grec exprime plus l'aspect ordre, discernement. Alors, dernière objection, la puissance intellectuelle se parfait par le don d'intelligence. Et quand une chose suffit pour en parfaire une autre, il est inutile d'en réclamer plusieurs. La sagesse n'a donc pas son siège dans l'intelligence. Réponse. L'intelligence a deux activités, dit. Deux activités. Elle perçoit et elle juge. À la première de ces activités est ordonné le don d'intelligence. À la seconde, en ce qui concerne les choses divines, le don de sagesse. En ce qui concerne les choses humaines, le don de science. Donc là, c'est tout simplement nous rappeler que l'intelligence a deux activités, saisir et discerner. Saisir et discerner. Appréhender et discerner. L'appréhension, c'est l'intelligence, c'est le don d'intelligence. On saisit, on pénètre. Et le point de vue de la sagesse, c'est de discerner. Ça arrête un quart d'heure ? 10 minutes. 10 minutes.
15 mai 1983, troisième conférence.
Je continue. Article 3. La sagesse est-elle seulement spéculative ou bien est-elle aussi pratique ? Cet contrat. Il y a ce qui est écrit dans l'épître aux Colossiens. «
Conduisez-vous en toute sagesse à l'égard de ceux du dehors. Cela relève bien de l'action. Par conséquent, la sagesse n'est pas seulement spéculative, mais aussi pratique. Selon saint Augustin, la partie supérieure de la raison est députée à la sagesse et sa partie inférieure à la science. Or, la raison supérieure, toujours selon saint Augustin, porte son attention sur les raisons suprêmes, c'est-à-dire divines, et cherche à les examiner et à les consulter, à les examiner en ce qu'elles contemplent les choses divines en elles-mêmes, à les consulter en ce qu'à partir des choses divines, elles jugent les choses humaines, et qu'à partir des règles divines, elles dirigent les actes humains. Ainsi donc, la sagesse comme don n'est pas seulement spéculative, mais aussi pratique. Vous voyez bien le raisonnement selon saint Augustin. Alors, vous voyez, il y a tout un problème là qui est très intéressant à voir, du reste, qui serait intéressant à bien comprendre. C'est cet enracinement dont saint Thomas parlait tout à l'heure. Il y a la volonté. Comprenons bien. L'esprit implique volonté et intelligence. La grâce est reçue dans l'âme. Donc, dans l'âme spirituelle, dans l'esprit. Et à partir de la grâce, la volonté est surnaturalisée par la charité. Et l'intelligence est surnaturalisée par la foi. Donc quand on dit que le don de sagesse, qui présuppose la charité, est enraciné dans l'intelligence, c'est enraciné dans l'intelligence transformée par la foi. Oui, bien. Il faut bien comprendre ça. Que la foi est dans l'intelligence. Elle est dans l'intelligence, vous savez comment ? Grâce à l'action de l'amour. Puisque le point de départ de l'intelligence, c'est la pia affection. C'est cette attention aimante qui ouvre notre intelligence pour écouter. Quand vous écoutez quelqu'un, il y a la pia affection qui incline votre intelligence à recevoir. C'est pour ça qu'on est réceptif. Il y a des moments où on ne l'est pas. On tourne le dos. Parce qu'il n'y a pas la pia affection. Cette attention aimante qui ouvre notre intelligence. Alors, déjà, l'intelligence, la foi, je veux dire, qui ouvre l'intelligence à recevoir la foi. Donc la foi présuppose l'amour. La foi est déjà une certaine connaissance aimante. Et cette connaissance aimante va s'ajouter parfaitement avec la sagesse. Donc la sagesse est reçue par la foi, par l'intermédiaire de la foi dans l'intelligence. Mais cependant, quand il y aura la vision béatifique, la foi disparaîtra et la sagesse demeure. Donc elle est reçue dans l'intelligence, c'est pour ça que saint Thomas dit qu'elle est reçue dans l'intelligence, sans dire par la foi. Mais cependant, c'est par l'intermédiaire de la foi. Mais elle est reçue radicalement dans l'intelligence. Elle est enracinée dans l'intelligence. Notre intelligence est transformée par le don de sagesse. Elle est transformée radicalement par la foi et encore plus radicalement par le don de sagesse. Parce qu'il y a quelque chose de plus radical encore, puisque c'est par l'amour, c'est par la charité. Alors notre intelligence aimante va pouvoir s'orienter vers Dieu. Et alors c'est ici où saint Thomas précise que le don de sagesse regarde en premier lieu les raisons divines, selon le langage de saint Augustin. Alors, comprenons bien ce que ça veut dire, les raisons divines. C'est-à-dire les mystères divins. Les mystères divins. La sagesse regarde en premier lieu. Elle est contemplative. La sagesse est premièrement contemplative. C'est un regard vers Dieu. Saint Thomas n'hésitera pas de dire, il ne le dit pas ici, mais il n'hésitera pas de dire que la sagesse habitus contemplativus. La sagesse, c'est quelque chose qui maintient en nous une attitude contemplative. Le sage, c'est celui qui instinctivement regarde en haut. Il regarde toujours vers Dieu. On est porté à regarder toujours vers Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense ? À la place de s'arrêter à notre jugement, qu'est-ce que Dieu pense ? Et on s'oriente vers Dieu. Ça simplifie beaucoup de choses. Parce que ça suspend notre jugement.
Ça nous empêche de juger directement. Quand on est sage, sous la sagesse de l'Esprit Saint, bon, notre inquiétude, c'est pas de savoir ce que nous pensons. Parce qu'on se trompe tout le temps. Mais c'est de savoir ce que Dieu pense. Alors ça, c'est très reposant. Parce que savoir ce que nous pensons, c'est pas reposant du tout. Hein. C'est pas reposant, c'est toujours très, très, très chaotique ce que nous pensons. Parce qu'on ne pense pas de la même manière. Hein. Après un orage ou avant un orage. Alors c'est différent. C'est chaotique toujours, n'est-ce pas ? Tandis qu'au contraire, ce que Dieu pense, c'est quelque chose d'éternel. Alors la sagesse nous incline vers les mystères de Dieu, donc vers le jugement de Dieu. Le jugement d'amour de Dieu. Le jugement d'amour de Dieu sur Dieu, sur nous. Et c'est en ce sens-là que la sagesse va, à partir des mystères de Dieu, va pouvoir regarder toutes choses, et d'un regard divin. Alors elle va pouvoir avoir un regard pratique. Oui, c'est ce que Saint Thomas dit ici en prenant la parole de Saint Augustin. Or, la raison supérieure, toujours selon Saint Augustin, porte son attention sur les raisons suprêmes, c'est-à-dire les mystères divins, et cherche à les examiner et à les consulter. À les examiner en ce qu'elles contemplent les choses divines en elles-mêmes,